Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire.
Bonjour Olivia Grégoire.
Bonjour.
Vous publiez « Et après pour un capitalisme citoyen » dans la collection Impact des éditions Cherche Midi. Emmanuel Macron a préfacé votre livre. On va en reparler, Olivia Grégoire, car vous savez bien que le sujet qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat en ce moment. Olivia Grégoire, à chaque fois que les prix vont augmenter, vous allez distribuer des chèques ?
Je ne crois pas que ça ait été prévu comme ça. Vous dites le pouvoir d'achat est une préoccupation des Français en ce moment. Le pouvoir d'achat est une préoccupation des Français depuis des années et c'est une préoccupation récurrente. On a aujourd'hui les conséquences d'un retour de la croissance, d'un retour fort de la croissance avec ces prix de l'énergie qui augmentent, avec d'autres prix qui vont augmenter. Il faut mieux prévenir les Français, que ce soit le pain, que ce soit le blé, le vin, possiblement dans les prochains mois. Et donc, l'idée, c'est de les accompagner. Il y a eu ce chèque inflation, cette indemnité inflation qui dépasse largement le carburant, vous le savez. Il n'est pas prévu à cette heure de faire d'autres démarches. On a fait beaucoup pour le pouvoir d'achat structurellement. Ici, c'est une action conjoncturelle.
Mais je vous dis ça parce que le patron des patrons, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dit « c'est dangereux cette aide, mais dans la tête des Français, l'idée que l'on va compenser systématiquement l'inflation par des mesures d'aide gouvernementale ».
Non, je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que les Français ne sont pas dupes. C'est un coup de pouce. Ça n'est pas une mesure pérenne. Et j'ai envie de dire aussi, chacun fait ce qu'il peut pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Aux entreprises et donc à Geoffroy Roux-de-Bézieux de voir aussi, dans les dialogues de branches qui sont enclenchés, comment on augmente les rémunérations dans les branches.
On y vient. Alors, 38 millions de Français vont toucher ce chèque. Si on enlève les chômeurs, les retraités, les étudiants, allez, on a, on va dire, environ 20 millions de personnes qui travaillent, qui vont toucher ce chèque. Le constat, c'est que le travail ne paie pas. Et donc là, vous êtes en train de dire ce matin aux entreprises... C'est à vous d'augmenter.
Je ne crois pas que le constat soit que le travail ne paye pas. Je n'ai pas le temps de vous faire toute la liste de ce qui a été fait, mais en matière de suppression des cotisations chômage, assurance maladie, rapprocher le salaire brut du salaire net, la prime d'activité, l'ensemble de la prime PEPA, prime Macron, l'ensemble des choses qui ont été faites en matière de pouvoir d'achat.
Vous distribuez à 38 millions de personnes ce chèque, dont de nombreuses personnes touchent moins de 2000 euros net par mois.
Mais savez-vous le salaire médian en France, Alba Ventura ?
Oui.
Donc c'est une réalité, et il n'est pas nul le salaire médian français
1700.
En Europe, tout à fait. Donc on a une limite qui est un peu au-dessus du salaire médian, 2000 euros, c'est la réalité. Autant de Français gagnent plus de 2000 euros que moins de 2000 euros. On a une vision assez pragmatique et pas idéologique sur ce sujet.
Mais
c'est aujourd'hui le montant moyen gagné par les Français.
Augmenter
les salaires, ça passe par des négociations de branches. S'il y avait un bouton magique... Je peux vous dire que j'en ai parlé longuement avec Bruno Le Maire. S'il y avait un bouton magique pour augmenter automatiquement toutes les rémunérations dans toutes les branches, d'abord on aurait été informé et possiblement on aurait appuyé dessus. On ne peut pas d'un côté nous réclamer à juste titre le dialogue social et de l'autre ne pas considérer qu'il faut avoir ces dialogues de branches. Il y a des secteurs où ça va bouger. Hôtellerie, restauration, vous avez vu les annonces. Il y a des secteurs dans lesquels les marges sont trop petites pour pouvoir augmenter les salaires. Il y a d'autres dispositifs qui devraient pouvoir, dans les mois qui viennent, et j'en parle dans mon livre, permettre de gagner plus. C'est l'objectif, le pouvoir d'achat. L'objectif, c'est plus d'argent sur le compte en banque à la fin du mois. Pour ça, au-delà du salaire, il y a aussi les primes. Et là-dessus, je fais des propositions. Participation, intéressement, actionnariat salarié. Un chiffre que je partage avec vous. En moyenne, vous parlez des 20 millions de salariés français. 8 millions de salariés ont accès à ces primes. Par construction, 12 millions ne touchent pas ces primes. Ça fait un tiers des Français uniquement qui touchent 2660 euros par an en moyenne de primes, participation, intéressement, actionnariat salarié. Vous imaginez que ça fait 2660 euros, ce sont les chiffres de la DARES, source calcul 2019, sorti en 2021.
Et ça concerne qui ?
Ça concerne un peu moins de 8 millions de salariés français sur 20 millions. Ma question ce matin, et la question sur laquelle je bosse pour le président de la République, c'est pourquoi seul un tiers des Français y a accès. Comment faire en sorte que, en fonction de l'entreprise où tu vas travailler, notamment dans des plus petites, tu puisses avoir accès aussi à ces surplus de rémunération
Mais les entreprises ne peuvent pas le faire, ça.
Mais c'est l'avantage.
Les grandes entreprises, ok, mais les PME, c'est plus incertain.
Mais des PME que je connais bien ou des entreprises de taille intermédiaire qui font du bénéfice, qui créent de la valeur avec leurs salariés, c'est un projet collectif. Les salariés sont quand même partie prenante de l'augmentation de la richesse dans l'entreprise. L'avantage de la participation, c'est il y a du bénéfice, on partage. il n'y en a pas parce que l'année n'est pas bonne, on ne partage pas. C'est extrêmement pragmatique comme approche. Ça n'a rien de... On ne partage pas de la richesse que nous n'aurions pas créée. L'intéressement, c'est de la performance. On peut tout à fait intéresser les salariés dans les années qui viennent de façon plus simple. Et l'actionnariat salarié, j'ai à cœur de rappeler que nous sommes quand même encore le plus grand pays d'Europe à partager le capital des entreprises. 110 milliards d'euros de capital entre les mains des salariés français.
Donc plutôt le partage de la valeur que l'augmentation des salaires.
Les deux, mon général. Quand on peut augmenter, exemple, branche, restauration, hôtellerie, on y va. Quand on ne peut pas, parce que marge trop petite, exemple, industrie créative et culturelle, c'est compliqué. Allons sur le partage de la valeur et vite. La participation, elle a 60 ans. Il est temps en 2022 de la rénover.
Et là, votre ami Geoffroy Roux de Bézieux dit que l'État aussi balaye devant sa porte. Je serais curieux de savoir combien Bercy paye ses femmes de ménage.
Oui, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre à Geoffroy Roux de Bézieux. Je crains, avec tout le respect que j'ai pour lui, que ce soit un peu un élément de langage pour travailler avec lui, avec le MEDEF, qui n'est pas retors sur ces enjeux de partage de la valeur. Je crois qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble et qui ne sont pas forcément opposées philosophiquement à plus partager la valeur dans l'entreprise. J'ai beaucoup de discussions avec son numéro 2, notamment Patrick Martin, qui connaît bien le sujet et qui dirige une entreprise de taille intermédiaire.
Olivia Grégoire, vous publiez « Et après pour un capitalisme citoyen ». Capitalisme, c'est un si gros mot que vous lui accolez, le citoyen ?
Oh non, ça n'est, d'ailleurs je le démontre assez vite dans le livre. Je rappelle tous les bienfaits du capitalisme, ce qui peut être politiquement incorrect, mais pour certains. Mais je rappelle à quel point le capitalisme a amené l'émergence des classes moyennes, le progrès, la diffusion de l'éducation, notamment pour nous les femmes. Néanmoins, aujourd'hui, il connaît des turbulences, la crise l'a démontré. Moi, ce que je dis en un mot, c'est que on a longtemps cru que l'économie était une sorte de moteur qui tournait, qui avançait comme ça. Il fallait freiner ou accélérer. C'est bien plus compliqué que ça. Il faut un pilote, il faut un volant. Il ne faut pas forcément changer le moteur capitaliste. Il faut lui donner une direction. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur les produits. Il est indispensable que les Français qui le veulent, qu'ils soient consommateurs, salariés ou épargnants, puissent savoir plus de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, investissent, et qu'ils puissent en transparence savoir ce qu'il se passe et comment la richesse, on vient d'en parler, elle est créée, mais elle est surtout partagée
c'est
dans
ça.
L'entreprise.
Vous voulez plus de transparence sur
plus
les
de
entreprises.
Plus de transparence.
Ce livre est préfacé par le président Emmanuel Macron, d'ailleurs. Permettez-moi de passer à la politique plus politicienne, on va dire. Est-ce que vous êtes, vous aussi, obsédé par Éric Zemmour ?
Moi, je suis obsédé par ma fonction à Bercy. Je remarque deux choses. C'est un feuilleton médiatique. À chaque jour, suffit, non, presque pas sa peine, oserais-je dire, mais suffit son épisode. On a eu Zemmour retire sa cravate, Zemmour pointe les journalistes, on a eu Zemmour est contre le permis à points, c'est Zemmour est dans le pré. Moi, j'attends, ou en tout cas, j'ai envie de voir, si on passe à la saison 2, Zemmour est en campagne, avec un vrai progrès. Programme, avec un vrai projet, et avec des vraies réponses. Deuxième partie qui est importante de rappeler, c'est que je ne me cache pas. Je ne suis pas aveugle, je suis lucide, et je n'ai pas pour habitude de me cacher derrière mon petit doigt. Quand on en est à ce niveau dans les sondages, c'est qu'on répond à quelque chose qui flotte dans l'opinion. Je ne suis pas aveugle. Il y a une attente, il y a un problème, il y a une crise d'identité en France, ça n'est pas nouveau. Il y apporte certaines réponses, mais il y a une obsession. Moi, je ne suis pas obsédé par Éric Zemmour. Il est obsédé par le phénomène migratoire. Il en fait une priorité absolue. Ce qui est assez facile, et ça a bon dos, c'est l'arbre qui cache la forêt. Que pense Éric Zemmour de l'économie ? Que fait-il pour le pouvoir d'achat ? Que fait-il pour l'écologie, pour la jeunesse, pour les retraites ? Moi, c'est de ça dont j'ai envie d'entendre parler. Après, Zemmour est dans le pré, à quand Zemmour en campagne ? Ce ne sera peut-être pas exactement la même saison et le même feuilleton.
Merci beaucoup, Olivia Grégoire. Alors, comme nous sommes à la radio, on ne voit pas forcément, mais vous attendez un heureux événement.
C'est gentil de le rappeler.
Ça va, vous gérez bien, ministre ?
Tout va bien.
Femme enceinte.
Tout va bien, et je pense à toutes celles qui, comme moi, sont en train de partir travailler et qui sont peut-être enceintes de bientôt 8 mois et pour qui c'est pas forcément facile mais qui sont tout autant, si ce n'est plus courageuses que moi. Important de dire qu'on peut être une femme engagée, qui travaille et qui a aussi envie de mener un projet personnel. Tout ça est compatible, les femmes le font au quotidien, c'est important qu'on le fasse aussi en politique.
Merci beaucoup Olivia Grégoire.
Merci à vous.
Merci à vous de l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Alors Zemmour est dans le pré, ben, écoutez, j'attends de voir la tête de ma camarade Karine Lemarchand.